Voilà, on va aborder une nouvelle série sur le livre, la première épître de Pierre. Donc la fin d'Apocalypse, on garde ça comme d'habitude hein, pour le dimanche autour de la Bible. Voilà, on a donc prévu d'aborder donc le livre de Pierre de façon suivie. Et la première épître de Pierre, et j'aimerais vous demander comment vous vous sentez ce matin. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes joyeux? Ou est-ce que vous êtes plutôt avec votre souci? Vous êtes peut-être assailli par des soucis et vous savez pas comment vous en débarrasser. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui sont joyeux. Et voilà. Eh bien, la première épître de Pierre, elle va justement nous aider à garder la joie. On a parlé de joie tout à l'heure. Et il va être question de joie ce matin. Une joie sans égale qui est possible. Et l'épître de Pierre est là justement pour nous y conduire. Je vous invite donc à prendre le début de l'épître de Pierre, les 12 premiers versets. Chapitre 1, versets 1 à 12. Épître de Pierre, donc première épître de Pierre, c'est vers la fin. Hein. Juste après Jacques. Et avant ça, je vais prier. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous as laissé tout ce dont nous avons besoin pour vivre dans ce monde qui va disparaître, qui va être remplacé par une nouvelle création. Et merci parce qu'en attendant, tu nous as équipés. Nous avons tout ce qu'il faut, Seigneur, pour vivre dans ce monde avec toi, Seigneur, et avec une joie indescriptible, Seigneur. Nous te demandons de nous conduire, Seigneur, dans l'écoute de ta parole, de nous disposer le cœur et l'intelligence. Nous voulons mettre vraiment dehors, Seigneur, nos soucis, tout ce qui nous fait, tout ce qui nous pèse, pour être pleinement disposés, Seigneur, à recevoir de toi et à te laisser agir en nous, Seigneur. En Jésus-Christ. Amen. Amen. 1 Pierre 1, 1 à 12. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers dans la dispersion, au pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie. Élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous en tressaillez d'allégresse, quoi que vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi, éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse, en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui d'avance attestait les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et les anges désirent y plonger leur regard. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Une lettre donc qui a été écrite par l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, pour des chrétiens en souffrance, des chrétiens qui souffrent, parce qu'ils sont dispersés, ils sont pas ensemble, ils ont été dispersés à cause de la persécution, parce qu'ils ont été méprisés à cause de Christ, ils subissent la prison, on leur a confisqué leurs biens, et même certains sont morts en martyrs. Et c'est cette situation, certains chrétiens les vivent encore aujourd'hui. L'association Porte Ouverte est là pour en témoigner, qui œuvre parmi les chrétiens persécutés, de ceux qui souffrent pour être chrétiens. chrétien passe un jour par des épreuves. Ne vous étonnez pas, c'est normal. Et c'est inévitable, comme on va le voir. Et cette épître, elle est là pour nous équiper, justement, comment vivre ces souffrances. Parce que cette lettre, qui est parole de Dieu, elle est là pour nous dire qu'il est possible d'avoir une joie ineffable, c'est-à-dire indescriptible, inégalable, dans des moments difficiles. Et cette lettre, elle est donc là pour nous fortifier, pour fortifier les frères et sœurs de l'Église de tout temps, de toute époque. Et Pierre, il était bien placé pour fortifier les chrétiens, parce que lui-même, il a été fortifié. Quand même, il avait renié le Seigneur Jésus, et il avait bien besoin de se sentir rassuré, de se sentir accepté par le Seigneur. Il avait connu la consolation du Seigneur, alors il était bien placé pour consoler, pour affermir ses frères. Lui qui avait renié le Seigneur pendant l'épreuve qui précédait la crucifixion. Et Jésus avait dit à Pierre, avant son reniement, il lui avait dit, en Luc 22, verset 32, « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Jésus avait en vue pour Jésus, Jésus avait en vue pour Pierre qu'il revienne, qu'il se convertisse, hein, le mot c'est se convertir, et qu'il affermisse ses frères. Pierre avait besoin, bien besoin d'être accepté par Dieu pour se relever après son reniement. Et non seulement le Seigneur l'a relevé, mais c'est ce même Pierre qui nous a laissé ces deux épîtres, un Pierre et deux Pierres, qui sont là pour nous fortifier. Alors, eh bien, il écrit pour des chrétiens dispersés, nous est-il dit, des chrétiens, des étrangers. Ça veut dire quoi? Vous savez, ceux qui sont loin de leur pays, souvent ils manquent d'identité, ils ont du mal à se retrouver dans une culture qui n'est pas la leur. Alors cette lettre, elle est là pour justement des chrétiens dispersés. Des chrétiens à la fois d'origine juive et d'origine non juive. Et pour leur rappeler, pour nous rappeler, que notre identité, eh bien, elle est en Christ. Quel que soit notre arrière-plan. Notre identité et notre héritage sont assurés en Christ. Ça s'adresse aussi à nous parce que ici, n'oublions pas que nous sommes que des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Notre patrie, elle est au ciel. Elle est au ciel et c'est ça notre espérance. Une espérance qui ne trompe pas, une espérance qui est certaine. Alors, le thème de mon message, c'est qu'aujourd'hui, il est possible de vivre en chrétien. Il est possible aux chrétiens de vivre en chrétien dans ce monde grâce à une espérance qui est certaine. Parce que c'est l'œuvre du Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Ce que nous allons voir effectivement que cette espérance, elle est certaine parce qu'elle est fondée sur l'œuvre du Dieu trinitaire. Premièrement, nous verrons qu'elle est fondée sur l'œuvre du Père. Son œuvre, c'est de nous avoir élus, l'élection des sauvés. Deuxièmement, nous verrons que cette espérance, elle est certaine parce qu'elle est fondée sur l'œuvre du Fils qui a versé son sang pour nous tous. Et troisièmement, nous verrons que cette espérance, elle est certaine parce qu'elle est fondée sur l'œuvre du Saint-Esprit qui agit en nous. Et si vous avez remarqué, les versets 1 et 2 font clairement mention du Dieu trinitaire, de l'œuvre et du plan du Dieu trinitaire. Dieu le Père, il nous a choisis pour le salut, par le moyen de son Fils Jésus-Christ, pour que nous lui obéissions et que nous devenions comme Jésus par l'œuvre du Saint-Esprit. Dans ces versets 1 et 2, on voit Dieu en trois personnes qui œuvrent pour nous. Alors notre espérance, elle ne peut être que certaine. Premier point donc, notre espérance est certaine parce qu'elle vient de ce que Dieu le Père nous a élus, l'élection, il nous a choisis. Et je vous propose justement de nous arrêter sur l'élection. Dieu le Père nous a choisis, nous chrétiens. C'est quoi l'élection? Est-ce que Dieu nous a élus parce que nous sommes meilleurs que les autres, nous sommes plus capables? Comme on choisit dans nos élections, on choisit les élus qui nous paraissent plus capables pour diriger notre pays, nos villes. Mais Dieu, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Il nous a pas élus parce qu'on était meilleurs ou plus capables que les autres. Dieu a choisi qui seraient ses enfants, non pas à cause de nous, mais à cause de lui. Parce qu'il est souverain, il est juste, il nous a choisis selon son bon plaisir et aussi selon sa préscience. La préscience, ça veut dire qu'il nous connaissait avant même qu'on soit sur cette terre. Il nous connaissait, il connaît lui qui connaît tout. Il nous connaissait avant notre naissance et avant qu'on ait pu faire quoi que ce soit pour lui. nous accepte pas parce qu'on a fait des choses pour lui. Il nous a choisis, selon son bon plaisir. Et Pierre, qui a écrit cette lettre, il est la preuve que l'élection ne dépend pas de nous, puisqu'il avait renié le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui l'a restauré. Est-ce que ça change pour vous de vous savoir élu ? Et si oui, qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change pour un chrétien de se savoir élu ? Est-ce que ça change quelque chose ? Eh bien déjà, ça devrait nous amener à l'humilité. On n'a aucun mérite. C'est Dieu qui nous a choisis. Et on peut se poser la même question que Pascal avait soulevée il y a quelque temps. Pourquoi moi ? Pourquoi moi, Seigneur ? Pourquoi moi ? Des fois, on se sent bien petit, indigne. Mais Dieu a fait son choix. Et puis, de se savoir élu n'enlève pas notre responsabilité humaine. Ne l'oublions pas. De nous savoir élus n'enlève pas nos responsabilités humaines dans nos choix. Bien au contraire. Même si nous avons été choisis, nous sommes responsables de nos choix. Ça serait folie de penser que, puisque j'ai été élu, je peux faire tout ce que je veux. De toute façon, j'ai mon ticket pour le ciel. Non. Ceux qui pensent comme ça, on peut émettre des doutes sur leur salut. Est-ce qu'ils ont vraiment été sauvés ? Ça n'enlève pas notre responsabilité. Et puis aussi dans nos rapports les uns avec les autres. Comment est-ce qu'on regarde les autres dans la rue ? Moi j'ai été élu et les autres. Eh bien, si nous avons été élus pour le salut, c'est pas pour autant que les autres ont été élus pour aller en enfer. Ne faisons pas cette erreur. Le salut, n'oublions pas, s'adresse à tous. L'évangile, la proclamation de l'évangile est pour tous. Et c'est notre mission à nous, l'Église, de l'annoncer à tous. À tous, même à ceux auxquels on ne pense pas. Iront en enfer seuls ceux qui auront obstinément refusé de croire dans celui qui est mort pour eux et qui est ressuscité. Seuls ceux qui ne se seront pas repentis, qui n'auront pas cru en Jésus. Ils se seront eux-mêmes envoyés en enfer. Concernant l'humilité aussi, quel but Dieu poursuit-il lorsqu'il nous a élus ? Pourquoi est-ce que Dieu nous a-t-il élus ? Bien, son but, c'est rien de moins que de nous rendre semblables à l'image de son Fils, Jésus-Christ. Et c'est très clairement dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 29, que je vous lis. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Voilà donc son but. Il nous a élus pour qu'on soit semblable à son Fils. Ça, c'est son plan pour nous tous. Et on peut avoir une espérance certaine, parce que les trois, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, le seul vrai Dieu, les trois travaillent ensemble dans ce sens pour nous rendre semblables à Jésus-Christ. Alors on peut être sûr que Dieu finira ce qu'il a commencé. Les trois se sont mis à l'œuvre pour nous amener à la ressemblance de Jésus-Christ. Et il y a cette promesse en Philippiens 1:6 que j'aime beaucoup, qui dit, l'apôtre Paul qui disait, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Amen. C'est Dieu qui le fera. Et ce que Dieu a commencé avec Pierre, il l'a fini. L'apôtre Pierre. Eh bien, ce qu'il a commencé avec nous, il le finira aussi. La doctrine de l'élection est donc un puissant encouragement pour tout chrétien, et plus particulièrement pour les chrétiens persécutés. Notre élection, eh bien, elle garantit notre héritage futur, parce qu'il est gardé par Dieu lui-même. Nous avons un héritage en tant qu'enfants de Dieu, et notre héritage, le fait d'avoir été élu fait que, eh bien, Dieu nous a choisis pour un héritage, et c'est lui qui garde cet héritage. Il est gardé par Dieu lui-même. Et cet héritage, nous dit le texte, il ne peut pas être corrompu. La mort, ça corrompt la mort. Un corps en putréfaction, il se décompose. Notre héritage, la mort ne peut pas le corrompre. Notre héritage, il ne peut pas être souillé par le péché. Et notre héritage, il ne peut pas être flétri par le temps, comme la peau se flétrit parfois. Ni sa beauté, ni sa valeur ne peuvent se flétrir par le temps qui passe. Et on ne peut pas en dire autant des héritages terrestres. Des héritages terrestres pour lesquels tant de familles s'entre-déchirent. Et parfois, eh bien, avec le cours de la bourse, c'est très fluctuant. C'est très fluctuant. Et puis, ce qui est magnifique, c'est que non seulement notre héritage futur nous est gardé, nous est réservé, verset 4, mais nous-mêmes, nous avons la promesse que nous serons gardés, nous sommes gardés, en la puissance de Dieu, verset 15, verset 5. Que demander de mieux? Et en effet, de se savoir élu par Dieu, eh bien, nous garantit son amour. De se savoir élu nous garantit l'amour de Dieu pour nous. Pourquoi? Parce qu'il veut nous rendre semblables à son fils qu'il aime, qu'il chérit. Et la Bible nous dit qu'il nous aime comme il aime son fils. Si vous avez accepté Jésus, il nous aime comme il aime son fils Jésus-Christ. De même que c'est impossible que Dieu cesse d'aimer son propre fils, c'est impossible que Dieu cesse d'aimer ses enfants qui avons accepté son fils. Parce qu'il nous a choisis. Et parce que nous avons cru en lui. Alors quel résultat pour nous, son Église? Eh bien une joie. Une joie ineffable. Et on va voir que cette joie, il y a plusieurs causes à cette joie. Une joie sans égale. Mon deuxième point, après avoir vu l'œuvre du Père, eh bien notre espérance, elle est certaine parce qu'elle est fondée sur l'œuvre de Dieu le Fils. Le salut en Jésus-Christ. Pierre bénit Dieu pour l'espérance vivante du croyant. Vivante. Pourquoi vivante? Parce que cette espérance, elle est fondée sur celui qui est vivant au siècle des siècles, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Par lui, Dieu nous a manifesté sa miséricorde, son pardon. Tout en restant juste, il a fait retomber sur lui, à la croix, la punition qui nous était destinée. Et il est ressuscité pour toujours. La résurrection de Jésus, Christ, est la garantie que nous aussi nous ressusciterons avec lui. Et que nous lui ressemblerons de plus en plus. Parce que c'est lui qui nous a régénérés. Il nous a rendus à la vie déjà, maintenant, nous qui croyons. Nous sommes déjà ressuscités avec lui. Lorsque nous croyons en Jésus, nous sommes sauvés. Mais ce n'est que le début. Notre salut n'est pas encore manifesté dans sa plénitude. Parce que le salut se conjugue à tous les temps. Passé, présent et avenir, futur. Dieu, le Père, a élu par le passé tous ceux qui croiraient en lui. Dieu, le Père, est la source de notre salut. Vous avez choisi de toute éternité. Dieu, le Fils, il est le moyen par lequel il nous sauve. En donnant sa vie il y a plus de 2000 ans. Et Dieu, le Saint-Esprit, c'est celui qui nous mènera vers le but final de nous rendre semblables à son Fils Jésus-Christ. Les trois travaillent ensemble à notre salut complet. Dieu lui-même nous assure une sécurité éternelle. Il nous a gardés hier. Quand je regarde ma vie, avant même que je connaisse le Seigneur, je me dis, mais là, le Seigneur m'a gardé, je ne le connaissais pas. Peut-être il en est pareil de vous. Le Seigneur nous a gardés hier, il nous garde encore aujourd'hui et il nous gardera encore demain, il a promis. Alors, il nous garde. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus rien à faire? C'est bon. On se laisse porter. Alors, on se laisse porter, oui. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus rien à faire. Nous avons notre part pour être gardés. Et notre part, c'est quoi? C'est de garder la foi. De garder la foi dans notre cœur pour persévérer. Parce que l'espérance, elle se nourrit d'attente. Si j'espère, ce qui est sûr, je vais attendre. Je vais savoir attendre. Espérance et foi vont main dans la main. Et Romains 8, 24-25 est très clair aussi. Il met bien en rapprochement l'espérance et la foi. Je vous lis Romains 8, versets 24 et 25. Car nous avons été sauvés, mais en espérance seulement. Si l'on voit ce que l'on espère, ce n'est plus de l'espérance. Qui donc espérerait encore ce qu'il voit? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec patience. Gardons l'espérance par la foi. Imaginons, si nous obtenons tout de suite ce que nous voudrions, à l'instant T, qu'est-ce qui nous resterait à espérer? On n'espérerait rien du tout si on avait tout ce qu'on voulait là tout de suite. Si tous nos souhaits étaient exaucés, vous savez, comme la lampe d'Aladin. Non, c'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Il veut qu'on ait l'espérance, qu'on espère en lui. C'est cette espérance qui nous garde vivants, brûlants pour lui. Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience? Vous attendez un cadeau à Noël, et là vous êtes super excité. Vous êtes joyeux, vous attendez ce cadeau. Ou votre anniversaire. Et puis ce cadeau arrive, et puis la joie que vous aviez en attendant ce cadeau, pouf, elle n'a pas duré. Une fois que vous avez eu ce cadeau, vous êtes passé à autre chose. Vous avez rangé le cadeau au placard, et vous êtes passé à autre chose. Et votre joie, elle a baissé. C'est pas la même joie que celle que le Seigneur nous propose et nous donne. Vous avez obtenu ce que vous vouliez, nouvel ordinateur, nouvelle voiture, robot de cuisine, super, excitation. Et puis quelques temps après, plus rien. Et vous passez à autre chose. C'est pas la vraie joie, celle-là. L'attente du retour de Jésus, nous sommes sûrs qu'il va revenir, c'est un encouragement. Si nous l'attendons, nous sommes encouragés à vivre sainement et saintement dans l'obéissance, parce que Dieu est saint. Si nous attendons Dieu, si nous attendons le retour de Jésus, si nous l'attendons, comment nous l'attendons-nous? En aspirant, en voulant vivre une vie qui plaise au Seigneur. Ça, c'est un signe que nous l'attendons. Ça, c'est la théorie. Parce que dans la pratique, on se rend vite compte que on pêche tous les jours. Et Dieu sait très bien notre difficulté à nous garder purs dans un monde impur, dans un monde déchu, marqué par le péché. Il le sait très bien tout ça. Mais regardez le verset 2. Il y a deux verbes qui sont au présent. Je vais lire la fin, verset 2 de notre texte. Dieu nous a élus. Dans quel but ? Afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Vous avez remarqué le présent, qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à quoi ? À l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus, il a coulé combien de temps ? Combien de fois ? Une seule fois. Or là, il est question de l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Nous avons besoin de son sang chaque jour, de lui demander pardon chaque jour pour nos péchés, de nous purifier chaque jour dans son sang, dans l'aspersion de son sang qui a coulé pour nous. Il a coulé pour nous une seule fois. Mais l'aspersion, c'est bien le fait que nous avons besoin chaque jour d'aller à Dieu pour lui demander pardon pour nos péchés, pour être en permanence, quotidiennement, purifié par son sang. Et puis, recevoir l'aspersion du sang de Christ, bien sûr, c'est recevoir son pardon, mais c'est plus que cela. C'est plus que recevoir le pardon de Jésus. C'est recevoir toutes les grâces qui vont avec et qu'il a payées pour nous en versant son sang, justement. Sa grâce et sa paix nous sont multipliées, verset 2. Le prix a été payé pour ça. Parce qu'on en a besoin. Chaque jour, nous avons besoin de sa grâce et de sa paix. Et le moyen, il est là. Le sang de Christ qui a coulé une fois pour toutes et dont nous pouvons nous couvrir chaque jour. Dieu achèvera ce qu'il a commencé. Et c'est le Saint-Esprit qui va faire le travail de finir ce que Dieu a commencé. Le Saint-Esprit que tout croyant a reçu. Si tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, tu as reçu le Saint-Esprit, il te l'a donné. Pourquoi on a reçu le Saint-Esprit? C'est ce qu'on va voir. On va voir, troisième point, notre espérance, elle est certaine parce qu'elle est fondée sur l'œuvre de Dieu le Saint-Esprit. Quelle est cette œuvre, d'après ce texte? Quel est le travail du Saint-Esprit? Parce que Dieu veut plus que nous pardonner nos péchés. Il veut plus que cela. On l'a vu, il veut nous rendre semblables à son Fils. Et comment nous rend-il semblables à son Fils? Eh bien, par l'obéissance. Jésus a parfaitement obéi à son Père, en tout point. Et parce que lui a obéi, il a rendu notre obéissance possible. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est que nous devenions obéissants, verset 2, pour devenir semblables à Jésus-Christ, qui a parfaitement obéi. Par nous-mêmes, on n'y arrive pas. C'est pas la peine. Si vous regardez à vous-même, arrêtez. On n'y arrive pas par nous-mêmes. et c'est là qu'intervient la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est de nous sanctifier. De nous sanctifier, ça veut dire de plus en plus de nous éloigner du péché, de plus en plus de nous rendre semblables au Fils, à Jésus. Et il est notre assistant, le Saint-Esprit, pour nous aider à changer de comportement quotidiennement, à avoir de plus en plus une vie qui honore le Seigneur, dans l'obéissance de Jésus, parce que lui a parfaitement obéi. Nous sommes libres. Dieu nous a rendus libres. Jésus nous a rendus libres. De quoi faire ? Nous sommes libres de ne pas pécher. Nous avons cette liberté de ne pas pécher. Il nous a affranchis du péché. Dieu veut que nous vivions par son esprit et non par la chair. Et puis là, il y a une joie ineffable. Ineffable, ça veut dire qu'on ne peut même pas décrire que Dieu nous promet. Et regardez les causes de cette joie. Elles sont nombreuses. Quand tu choisis de fuir le péché, tu as le choix. Tu sais qu'il y a un programme à la télé qui est dégradant pour la personne humaine, qui n'honore pas Dieu. Tu as le choix entre éteindre la télé, soit regarder un film édifiant, soit ouvrir ta Bible, mais tu as le choix. Quand tu choisis d'éteindre le bouton, plutôt que de regarder cette émission, qui est dégradante par peut-être ce qu'on entend, ou par les images, quand tu choisis d'éteindre le bouton, est-ce que tu as fait l'expérience que tu es joyeux, tu es joyeuse? Tu as fait le bon choix parce que tu as choisi d'obéir à Dieu. C'est une joie qui provient de notre obéissance. Et puis il y a encore cette joie, elle est multipliée. Parce que supposons que tu as péché. Tu t'es laissé aller regarder, encore une fois, je prends l'exemple de la télévision, quelque chose qui n'honore pas Dieu et quelque chose où tu t'es senti sali après. Eh bien, tu peux encore te repentir. Tu peux demander pardon à Dieu. Et là, tu as la joie de son pardon. La joie de son pardon. Parce que tu sais, quand tu as placé ta confiance en lui, qu'il te pardonne. Il a tout payé pour ça, de son sang. Encore plus que cela. Une autre raison à notre joie, j'y reviens, Dieu nous garde un héritage pour le futur. Il a promis de garder notre héritage, non seulement notre héritage, mais de nous garder nous aussi. N'est-ce pas de la joie ? N'avons-nous pas de la joie quand on considère notre héritage qui nous attend au ciel, que Dieu nous garde ? Encore une raison à notre joie. Et plus grande encore, cette joie peut devenir. Cette joie est encore plus grande lorsque notre obéissance nous coûte. Lorsqu'elle va jusqu'au sacrifice, par amour pour autrui. Est-ce que vous avez déjà éprouvé cette joie de vivre? Vous avez fait quelque chose qui vous a coûté. Peut-être vous êtes allé à une réunion de prière, vous étiez fatigué, mais vous avez pris la décision d'y aller. Et une fois retourné à la maison, vous étiez rempli. Et ça vous a coûté. Mais la joie qui en découle, elle est inégalable. Cette joie est encore plus grande lorsque notre obéissance nous coûte. Et cette joie, c'est pas une fausse joie. Cette joie, tu n'as pas à te la fabriquer toi-même. Non, il s'agit de la vraie joie, une joie sans égale. Parce que c'est Dieu lui-même qui nous la donne. C'est le fruit de l'Esprit. C'est le fruit du Saint-Esprit. L'œuvre de l'Esprit, c'est justement de nous donner cette joie. Je rappelle le fruit de l'Esprit. La joie en fait partie. C'est dans Galates, chapitre 5, verset 22-23, que je cite. Galates 5, verset 22-23. Mais le fruit de l'Esprit, donc du Saint-Esprit, mais le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi, c'est tout ça. Oui, cette joie, elle est le fruit de l'Esprit, alors elle est surnaturelle, elle nous est donnée. Jésus a payé le prix pour nous la donner. Cette joie, elle est surnaturelle parce qu'elle perdure dans l'épreuve. Elle perdure dans l'épreuve, dans les moments de persécution, elle est toujours là, cette joie. Preuve qu'elle vient de Dieu. Peut-être vous passez par des moments difficiles, vous êtes passé par des moments difficiles qui vous ont blessé. Et peut-être en tant que chrétien, chrétienne, vous êtes surpris. Vous êtes surpris lorsque vous passez par des moments difficiles. Peut-être des enfants qui se révoltent alors que les parents les ont instruits dans la foi. Quelle tristesse. Ou alors vous faites des efforts, tous vos efforts pour obéir à la parole de Dieu, pour rester fidèle à la parole de Dieu. Il vous tombe dessus des épreuves que vous n'aviez pas attendues. Vous ne vous étiez pas préparé. Et puis vous vous dites dans ces souffrances, mais pourquoi moi? Pourquoi moi, Seigneur? Mais est-ce qu'on ne s'est pas déjà posé cette même question? Pourquoi moi, quand Dieu nous a élus, sans aucun mérite? Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi Dieu permet-il les épreuves chez ses enfants? C'est une grande question que les non-chrétiens aussi se posent. Hein. Pourquoi Dieu permet-il les épreuves chez ses enfants? Réponse, il faut s'en contenter, hein, mais on va aller plus loin. Parce que c'est nécessaire. Le verset 6 nous dit, puisqu'il le faut, il le faut. Tout chrétien passe par des souffrances, au moins une fois dans sa vie. Mais ces souffrances, elles sont jamais gratuites. Dieu ne prend pas plaisir à voir souffrir ses enfants. Les souffrances ont un but. Déjà, Dieu, eh bien, permet la souffrance. Pourquoi? Les souffrances, elles peuvent venir de notre péché aussi. Dieu permet la souffrance pour nous enlever notre péché, pour nous aider à changer de comportement, pour nous enlever nos mauvais traits de caractère, nos mauvaises habitudes. En résumé, pour nous rendre toujours plus semblables à son fils, comme on l'a vu tout à l'heure. D'autant plus que son fils a souffert. Lui qui n'avait pas péché. Et il a connu les pires souffrances. Mais ces souffrances, les souffrances de Jésus, n'étaient pas une fin en soi. Jésus a connu une joie sans égale après avoir traversé ses souffrances à la croix. Et sa victoire, par sa résurrection, nous garantit notre victoire dans l'épreuve. Lui, il est passé par là, la pire des épreuves. Alors, que faire quand des difficultés croisent notre chemin? Des choses qu'on n'a pas demandées. Eh bien, accueillons-les. Il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. Accueillons-les. Accueillons-les en nous rappelant que ces souffrances ne durent qu'un temps, verset 6. Elles ne sont pas éternelles. Verset 6, elles ne durent qu'un peu de temps. Et on peut en sortir par la grâce de Dieu qui est fidèle. Et puis, une autre raison pour laquelle Dieu permet ou envoie la souffrance, et là il ne s'agit pas du péché, c'est pour révéler à notre foi. Notre foi qui est bien plus précieuse pour lui que l'or. Le plus résistant des métaux, l'or c'est le plus résistant des métaux. Et l'or il est périssable, mais notre foi elle est impérissable. Les épreuves, quel effet elles ont sur notre foi? Elles vont pas la détruire. Au contraire, les épreuves vont rendre notre foi encore plus solide. Les épreuves ne font que renforcer et nourrir notre foi plutôt que de la détruire. Il y a des exemples là, dans la parole de Dieu. Par exemple, dans l'Ancien Testament, Job. Job, pendant ses dures épreuves, oh bien sûr, il a discuté avec lui. Pourquoi ces épreuves? Il a discuté avec Dieu, mais à la fin, il en est ressorti avec une meilleure connaissance de Dieu. Les épreuves l'avaient fortifié, l'avaient affermi. Vous vous rappelez aussi, dans le livre de Daniel, les trois amis de Daniel qui avaient été jetés vivants et liés dans la fournaise ardente à Babylone. C'est pendant cette épreuve que Dieu, Jésus-Christ, les a accompagnés dans la fournaise. Et c'est pendant l'épreuve qu'ils ont été déliés de leurs liens. Ils avaient été jetés liés dans la fournaise. Parce que l'épreuve peut aussi servir à nous délier de liens dont on a du mal à se défaire. L'épreuve sert aussi à ça. Un commentateur, William MacDonald, dans son commentaire, et je trouve ça très intéressant, il a appelé le test de la foi, il a appelé cela un vote de confiance de Dieu envers ses enfants. Un vote de confiance de Dieu envers ses enfants. Ça veut dire que quand Dieu nous envoie ou permet l'épreuve, c'est comme si lui-même votait pour nous. C'est comme si lui-même votait pour nous. Il nous envoie l'épreuve, il nous a choisis. Et il sait qu'on va pouvoir la traverser avec lui. Voilà de quoi nous réjouir. Par la foi, Dieu veut nous apprendre à devenir totalement dépendants de lui. Et parfois, eh bien, pour nous rendre dépendants de lui, il utilise la souffrance dans ce but-là. Il nous veut toujours plus proches de lui. Et peut-être vous êtes un peu comme ça, moi ça m'arrive. Mais quand nous avons des épreuves, qu'est-ce qu'on fait? On a souvent tendance à vouloir nous en sortir par nous-mêmes. À vouloir tout régler par nous-mêmes. C'est bon, je gère. Et ça, c'est pas la foi. Il y a des choses qu'on peut pas régler nous-mêmes. Dieu nous invite à lui faire confiance à 100% en lui remettant dans la prière tous nos soucis, nos craintes, nos doutes. Et une fois qu'on les a déposés, il ne s'agit pas de les reprendre. Et puis, si nous avons l'impression que nos prières restent sans réponse, eh bien, c'est certainement que Dieu veut nous apprendre le fruit de l'esprit, la patience. La patience. Comment est-ce que nous pourrions apprendre à lui faire confiance si déjà nous avions toutes les réponses? Des fois, on comprend pas tout, il faut l'accepter. Mais si Dieu nous fournissait à l'avance toutes les réponses qu'on attend, comment est-ce qu'on apprendrait à faire confiance à Dieu, à nous attendre à lui? Mais, si nous gardons la foi dans l'épreuve, eh bien Dieu enverra dans notre cœur une joie indescriptible, sans égale, indestructible, verset 8. Indicible, pardon, verset 8. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Cette joie, elle est le signe de la présence réelle du Christ ressuscité. Et cette joie, elle ne dépend pas des circonstances. Elle dépend de lui qui nous la donne. Aujourd'hui, si on allume la radio, si on rentre du travail, on met les informations, pas de quoi nous réjouir. Mais cette joie, elle ne dépend pas des circonstances, elle dépend uniquement de Dieu qui nous la donne. Alors ne craignons pas l'inflation, ne craignons pas la guerre, ne craignons pas la sécheresse, la canicule, les virus, tout ça. Cette joie, elle est indépendante des circonstances. Et puis cette joie, eh bien, elle a un effet sur nous. Elle va nous amener, quand on a cette joie, qu'est-ce qu'on fait? On a envie de louer celui qui nous a envoyé cette joie. Elle nous amène à la louange, à louer Dieu. On chante Dieu. Et c'est un juste retour sur investissement. Dieu investit en nous, il nous donne sa joie. Qu'est-ce que ça produit en nous? De la louange. On lui rend grâce. La foi réelle, celle qui aura été éprouvée, elle aura pour résultat la louange, l'honneur et la gloire, nous dit le texte. Quand Jésus reviendra pour récompenser tous ceux qui auront gardé l'épreuve, qui auront gardé la foi, pardon, sans l'avoir vue. Et les enfants l'ont chanté tout à l'heure, Jean 20, verset 29, ce que Jésus a dit à Thomas, qui l'a vu ressusciter. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et puis c'est pas fini. L'œuvre du Saint-Esprit. Pour nous aider à garder la foi, qu'est-ce que Dieu utilise? Ceci, ce trésor. L'Écriture. Il œuvre à travers nous par l'Écriture. Cette Écriture, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même qui l'a inspiré à des hommes du commun, qu'il a choisi pour écrire sa parole, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et ce qui est magnifique, ce que nous dit ce texte-là, la première épître de Pierre, c'est que nous, Église de Jésus-Christ, c'est que nous sommes mieux placés que les prophètes de l'Ancien Testament. Pour comprendre la Bible, nous sommes mieux placés que les prophètes de l'Ancien Testament, que Dieu a inspiré pour écrire sa parole. Parce que les prophètes de l'Ancien Testament, ils ne comprenaient pas tout ce que Dieu leur demandait d'écrire. Ils ne comprenaient pas tout. Ils étaient sous la dictée. Dieu leur dictait ce qu'ils devaient écrire. Mais ils ne comprenaient pas tout ce qu'ils écrivaient. Daniel en est un bon exemple. Un prophète de l'ancienne alliance. Voici ce qu'il dit dans Daniel chapitre 12, verset 8, quand Dieu lui soufflait ses paroles. « J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ?» Daniel avait reçu la révélation de la fin des temps. Il avait eu des visions qu'il ne comprenait pas. Les prophètes de l'Ancien Testament n'avaient pas tout compris. Ils ont cherché à comprendre ce que Dieu leur disait et qui annonçait déjà d'avance les souffrances du Messie, qui annonçait d'avance le salut par la foi seule et la période de grâce qui s'en suivrait, dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ces prophètes de l'Ancien Testament, ils n'ont pas vu ni vécu cette période de grâce. Ils ne pouvaient pas tout comprendre. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas encore venu. Ils ne pouvaient pas tout comprendre tant que la mort et la résurrection de Jésus n'avait pas encore eu lieu. Pour s'approprier ce salut par grâce. Ils ne savaient pas quand ça se produirait, mais ils ont cherché. Et en cherchant, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Que ce n'était pas pour eux qu'ils ont écrit ces choses, Et c'est pour toi, pour moi, pour nous, l'Église. Ils étaient simplement ministres, serviteurs de l'Évangile, versets 11-12. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, l'Église, nous avons une étendue de compréhension de la Bible plus grande que la leur. Ce qui devrait nous encourager à lire ce trésor. Qu'en est-il? Est-ce que vous l'ouvrez chaque jour de votre vie pour vous fortifier? Parce que c'est le même esprit qui l'a inspiré et qui est là pour nous aider à comprendre ce qui est écrit. Et le Nouveau Testament en est un bon exemple. Le Nouveau Testament éclaire l'Ancien. On comprend mieux l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. Et cet épître de Pierre nous éclaire justement sur l'Ancien Testament. Alors si tu ne comprends pas toujours ce que tu lis dans la Bible, demande à Dieu. Il est là pour t'éclairer, pour t'aider. Qui cherche trouve, a promis Jésus. Et c'est aussi le même esprit qui nous accompagne lorsque nous proclamons l'évangile de Jésus-Christ, qui est notre mission à l'Église. Il est là pour nous aider à comprendre. Il est là aussi lorsque nous proclamons avec notre bouche l'évangile de Jésus-Christ aux gens qui nous entourent. Et puis ça se termine en apothéose, ce passage. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que non seulement nous, l'Église, nous comprenons mieux la Bible que les prophètes de l'Ancien Testament, mais nous avons un privilège supplémentaire par rapport aux anges eux-mêmes. Les anges, nous sommes mieux placés que les anges. C'est ce que nous dit ce texte. C'est l'idée qui en ressort. Les anges qui s'intéressent de très près à ta vie et à ma vie. Les anges observent de très près comment tu vis ta vie chrétienne. Ils ne savent pas comment tu vas réagir dans telle ou telle situation. Et ils t'observent. Les anges ne connaissent pas la joie qui est la nôtre. Les anges ne connaissent pas la joie qui est la nôtre. Pourquoi? Parce que notre joie, elle provient de notre salut en Jésus-Christ. En effet, Christ n'est pas mort pour des anges. Christ est mort pour nous, des hommes, des femmes. Et Hébreux chapitre 2, verset 16, nous le dit. Je le lis, Hébreux 2, 16. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham, c'est-à-dire à nous autres croyants. Éphésiens 3:10 nous dit que c'est par l'Église que les anges connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. Nous sommes mieux placés que les anges. Nous connaissons une joie que eux ne connaissent pas, ou pas de la même manière. Alors si les anges s'intéressent eux-mêmes à ta vie, à ma vie, à nos choix, à combien plus forte raison Dieu s'y intéresse? Il a le regard, il t'aide. Il est là pour te conduire jusqu'au bout de son plan, de te rendre semblable à son Fils, Jésus-Christ. Dieu s'y intéresse, il veille sur nous qui croyons en lui. Les trois travaillent à notre salut. Le Père nous a choisis pour le salut de toute éternité. Le Fils a rendu notre salut possible par la croix. Et le Saint-Esprit nous garde et nous gardera dans notre marche avec lui. Gloire à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Je vais prier. Seigneur, on n'a pas fini d'explorer les merveilles de ta parole, mais merci parce que ce texte, il nous encourage, Seigneur, comme les prophètes de l'Ancien Testament, à creuser ta parole, Seigneur. Il nous encourage à chercher, et quand on cherche, eh bien oui, il y a des pépites, Seigneur, dans ta parole, qui est elle-même du grand trésor, Seigneur. Merci en tout cas de nous avoir révélé ces choses, Seigneur. Merci de nous aider à prendre conscience de notre identité en Jésus-Christ. Ce que tu as fait de nous, ce que tu feras de nous, ce que tu as promis de terminer en nous, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Voilà, aide-nous à garder confiance. Ce monde, il est difficile, mais tu es là, Seigneur, et tu nous équipes, Seigneur, pour traverser, Seigneur, cette vie sur terre, avec tous ces dangers, toutes ces tentations, tu es là pour nous rendre semblables à ton Fils, déjà dans ce monde, Seigneur, dans lequel tu nous appelles à briller de ta lumière. Donne-nous, Seigneur, vraiment de te voir à l'œuvre, et garde-nous en espérance, Seigneur, dans l'espérance de ton retour, et Seigneur, que notre vie témoigne que nous t'attendons, Seigneur. Merci. En Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen.
Amen.